Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Pixel.
I love Chuck Norris.
Non mais laisse tomber Pixel. Hein. Le meilleur, comme dit ATH, c'est Jean-Claude Van Damme.
Mais
non, Chuck Norris.
Juste avant le podcast, il a pas dit qu'il aimait bien Steven Seagal?
Ouais, et il est un peu faux cul, je trouve, Pixel, aujourd'hui. Hein. Tout ça pour plaire aux masses. Bon, allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Inside. On enchaînera ensuite sur les fans de Nintendo à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il y a un fan movie qui a été publié. Et ensuite parce qu'il y a eu une petite annonce par rapport à Nintendo et ses fans, justement. Pour les Game Awards, on enchaînera ensuite sur la blague de la semaine, à savoir No Man's Sky qui revient d'entre les morts. Nous parlerons de nouveau de Homefront The Revolution, le jeu préféré de Pixel, n'est-ce pas? On enchaînera ensuite sur Watch Dogs 2 et ses ventes. Nous parlerons de Titanfall 2 ainsi que d'Ubisoft. Voilà, Ubisoft qui va avoir pas mal de changements au niveau de sa politique sur les DLC. Bon, on commence, messieurs, donc, avec Inside. Il y a eu une petite annonce cette semaine qui m'a fait plaisir, et il va renoncer à ses DRM. Parce que je rappelle, Inside, c'est l'un des rares jeux indépendants qui avait cette putain de saloperie de des nouveaux d'inclus. Des nouveaux, je rappelle, donc c'est une solution qui protège les DRM, ce n'est pas vraiment un DRM en soi, c'est plutôt une solution qui fait en sorte que les piratins ne puissent pas casser les protections, quoi, tout simplement. Et donc, il est sorti cette semaine sur Google Games, et qui dit sorti sur Google Games, dit fin des DRM, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu un patch au passage sur Steam qui a viré des nouveaux. Voilà. Inside n'a plus de DRM, il est donc enfin devenu fréquentable pour ce qui me concerne. Et d'ailleurs, je l'ai acheté dans la foulée pour encourager les développeurs dans cette voie. Et je l'ai fini dans la nuit d'hier soir, voilà.
Et alors, c'était bien?
Bah écoute, c'est cool. Alors, c'est pas l'expérience renversante comme j'ai pu le lire dans plein de tests, etc. Mais franchement, la fin est super bien trouvée. Il y a un travail sur le sound design qui est absolument hallucinant. Et puis aussi au niveau de tout ce qui est animation, fluidité du jeu, etc. Les mecs, vraiment, on sent qu'ils ont étudié leur sujet et que le jeu, ils l'ont sorti bien fini. Contrairement à pas mal de développeurs, n'est-ce pas? Je vous propose qu'on enchaîne, messieurs. Et nous allons maintenant parler d'un film fait par des fans sur Majora's Mask. Alors Majora's Mask, on le présente plus, hein, le meilleur Zelda, voilà, c'est dit. Et le meilleur Zelda qui avait une ambiance assez glauque, tout ça. Et on a eu droit à un film de fans fait en images de synthèse qui, ma foi, envoie du pâté. Alors c'est, moi je le mettrai en lien de la description de l'émission. C'est en gros un film qui présente les origines de Skull Kid. Franchement, j'ai beaucoup aimé. ATH, je sais que toi, tu es un fan de Majora's Mask, donc...
Ouais, bah, enfin, Majora's Mask, Ocarina of Time, les deux meilleurs Zelda, de toute façon. Il a une ambiance assez noire, assez sombre, qu'il n'y a pas du tout dans tous les autres Zelda. Même, tu vois, Twilight Princess, par rapport à lui, c'est du pipi de chat, en fait. Et pourtant, il a toujours ce côté un petit peu enfantin. C'est assez bien trouvé. Je trouve que ils ont réussi à retranscrire l'ambiance du jeu sans la dénaturer totalement, en la rendant encore un peu plus sombre que, tu vois, que le jeu. Et enfin, franchement, je veux dire, c'est quand même assez fou ce qu'ils ont réussi à faire par rapport à ça. Et si on pouvait avoir un jeu, tu vois, de cette trempe-là, enfin, moi, je signe tout de suite, quoi. S'il y a un, sur la Switch, il me faut un jeu de la Majora's Mask comme ça, je l'achète day one.
Rien à ajouter?
Alors moi j'ai vu le trailer, mais je l'ai trouvé très sombre, exactement. Moi j'avais pas joué au jeu à l'époque, hein, j'y ai jamais joué. Je savais qu'il était très...
Non, mais franchement, Pixel, il faut que tu le fasses, Majora's Mask. Il a un truc en plus, quoi, par rapport aux Zelda. Les trois jours où tu reviens dans le temps, un peu comme dans le jour de la marmotte, où tu reviens sans cesse les mêmes événements, et en même temps tu continues à avancer, C'est une mécanique de gameplay basée sur les fondements de Ocarina of Time, mais qui a sublimé en fait la recette, et c'était une suite, mais qui a apporté quelque chose en fait au jeu d'origine. C'était pas une suite 1.5 comme on appelle aujourd'hui. C'était vraiment un truc. Je pense qu'on retrouvera malheureusement plus jamais un Zelda de cette qualité-là, quoi.
Bah écoute, j'y jouerai un jour, sûrement. Je sais pas, on verra bien.
Fais-le en émulateur. Hein, hein.
Voilà, je vais faire en émulateur, mais pour le trailer en lui-même, je m'attendais à voir Zelda ou Link, et bah non. Donc c'est plutôt bizarre. Mais après, je me dis, peut-être normal, s'ils avaient mis Link ou Zelda, Nintendo aurait mis son grain de sel. Là, on voit aucun vraiment personnage de Nintendo attitré, quoi. Donc Nintendo les ont laissés tranquilles pour l'instant.
Bah, hein, disons que... En fait, non, c'est surtout que... Skull Kid, c'est un peu le personnage emblématique. C'est le bad guy, quoi. C'est le meilleur bad guy qu'a jamais eu dans un jeu Nintendo. Et je trouve intéressant qu'ils aient centré sur ça. Je sais pas si c'est par rapport à Nintendo, parce que de toute façon, Nintendo, tu sais, ils font pas dans le détail, en fait. Hein. Tu peux mettre toutes les protections que tu veux, ils te tomberont dessus, quoi.
De toute façon, une fois que c'est apparu maintenant sur Internet, je pense que même si Nintendo, il le strike, etc., y a moyen de le retrouver. C'est comme ils avaient supprimé le remake de Metroid 2. La ROM, on peut la trouver pas facilement, mais on peut la trouver quand même sur Internet, quoi, si on cherche bien.
Pixel, tu as quelque chose à ajouter ou...
Non, mais c'est tout. Ben voilà, c'est que de toute façon, ça sera toujours là grâce à Internet. Même si Nintendo met son grain de sel.
Et ben justement, ATH parlait du remake de Metroid 2 qui était sorti sur PC. Il se trouve que ce fameux remake, plus un jeu fait par des fans sur Pokémon, c'était Pokémon Uranium, je crois, avait été nominé pour les Game Awards. Donc les Game Awards, je rappelle, c'est la fameuse cérémonie des Oscars façon jeu vidéo, tu vois, où il y a des mecs qui vont se palucher en cercle pour dire « Ah ouais, c'est moi le meilleur, j'étais consacré par l'industrie, c'est génial. » Par contre, il y a une catégorie qui a un intérêt, je pense, aux Game Awards, c'est la catégorie des fan games.
Mais ça, c'est nouveau, ça, non ?
Moi, je la connaissais pas.
Moi non plus.
Mais après, j'ai pas regardé celle de l'année dernière, hein, donc je vous avouerai.
Moi non plus.
Peut-être que ça y était déjà. Hein. Et c'est pas comme si les Game Awards m'avaient laissé un souvenir indélébile non plus. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, ça fait découvrir des jeux faits par des fans qu'on connaît pas et qui potentiellement, tu vois, peuvent être géniaux. Sauf que là arrive Nintendo. Bon, alors officiellement Nintendo n'a rien fait, hein, évidemment, mais bizarrement il y a deux jeux de fans de Nintendo qui étaient nominés sur quatre, et ces deux jeux ont été retirés de la sélection. Alors on peut se demander pourquoi. Bah écoute, étant donné qu'on nous a fourni aucune explication, il va falloir supposer, hein. Et la supposition la plus probable, on va dire, c'est que ben Nintendo est sponsor de l'événement et Nintendo a demandé à ce qu'il dégage.
Exactement. Voilà.
Alors, ce n'est qu'une supposition, on est d'accord, mais personnellement, je vois pas d'autre explication.
Après, moi, je veux dire que Nintendo, ils ont tort de faire cette politique-là, du moment que la personne n'essaye pas de se faire de l'argent sur le dos de Nintendo. C'est un projet de fan dans le but de partager la passion qu'il a pour le jeu, et c'est dommage que Nintendo strike justement ce genre d'initiative. Après, je comprendrais si le mec essayait de fourrier ça sur Steam, que Nintendo lui met des bâtons dans les roues, mais du moment que c'est pas vendu, ça reste un truc quand même assez mineur, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc non plus que tous les fans de Nintendo vont pouvoir y jouer. C'est un truc qui est quand même réservé à un...
Ouais, c'est sur PC, voilà. Enfin, faut aller le chercher. La plupart des fans de Nintendo, à mon avis, savent même pas que ça existe. Mais bon, au-delà de ça même, imaginons, bon, ok, ils ont travaillé le truc, le projet n'existe plus. Qu'est-ce que tu vas interférer dans une cérémonie pour que le jeu il ne soit pas nominé ? Là, ça fait effet stressant, tu vois. C'est-à-dire que les sites en parlent, donc du coup, les sites en parlent, ils parlent du jeu, forcément. Et donc du coup, les gens vont aller voir ce que c'est. Enfin, tu vois, c'est l'attitude, typiquement, de l'éditeur complètement débile qui essaye d'étouffer un truc alors que c'est trop tard. Ça y est, le jeu, il est sur Internet, c'est bon.
Exactement. Mais après, je veux dire, tu vois, Nintendo, ils font le contraire de ce que fait Bethesda. Bethesda, ils laissent utiliser la licence Doom. Bon, certes, c'est une licence beaucoup moins... Enfin, non, d'ailleurs, parce que Metroid, c'est pas si populaire que ça non plus, quoi.
Le dernier Doom, il s'est vachement bien vendu, en plus. Hein,
ouais, donc encore plus, tu vois. Donc là, ils laissent les fans faire des mods, faire des jeux avec leur licence. Et tant que, bah là, c'est pas commercialisé, ils essayent pas de faire de l'argent avec, bah Bethesda, il laisse faire. Et tout le monde y trouve son compte, je vois pas où est l'embrouille. Mais tu vois, c'est là où Nintendo, en fait, ils ont vraiment un problème. Ils sont vachement protecteurs. Mais on se rappelle de l'histoire où il y avait des gens qui, enfin, tout ce qui était sur YouTube, si tu faisais des vidéos, il faut que tu sois sponsorisé par Nintendo, sinon ils te prenaient tout ton fric. Enfin, c'était un truc pas possible, quoi. Il y avait que Nintendo qui.
Alors, résultat des courses, les gens ne parlent plus des jeux Nintendo.
Voilà.
Donc ils ne participent plus à la communication de Nintendo, du coup, hein, parce que il faut dire ce qui est. Quand tu fais une vidéo sur un jeu, tu participes à sa communication aussi. Et enfin Nintendo quoi.
Voilà, Nintendo. Exactement.
Bon, Pixel, tu vas pouvoir te réveiller.
Oui, mais je suis réveillé, vous inquiétez pas.
Non, mais parce qu'on a parlé des Game Awards, ça l'a endormi quoi.
On va parler du coup d'un jeu que Pixel a apprécié. Hein. Je vous renvoie au test qu'il avait fait dans un précédent podcast. Et ce jeu, c'est Homefront: The Revolution. Pourquoi on en parle cette semaine ? Parce que l'éditeur du jeu, Deep Silver, a donné une interview chez MCV, qui est un site anglophone. En gros, ce qui a été dit, c'est que, ben écoute, on a compris la leçon. En tout cas, c'est ce qu'affirme le directeur marketing Paul Nichols. Et Paul Nichols, donc, affirme que, bah écoute, le jeu, on l'a sorti trop tôt, sans deck. Et que, bah, du coup, la prochaine fois, on fera ce qu'il faut pour que le jeu, il soit bien reçu, parce qu'on s'est bien rendu compte, en discutant avec les fans du jeu, que, ben écoute, le fait qu'on ait bossé dessus, qu'on ait amélioré les choses, etc., ça a quand même, disons... améliorer la vision qu'avaient les gens du jeu. Au départ, il s'est fait descendre et puis que maintenant, ils ont des retours plutôt positifs, apparemment. Bah d'ailleurs, la preuve, Pixel qui vous a fait un test sur une version qui était a priori un peu plus patchée, quoi, on va dire. Et j'ai envie de dire, ben écoute, c'est bien, mais je comprends pas que ce soit pas logique, en fait.
Bah non, mais n'importe quel jeu, tu vois, il y a toujours des bugs, hein. Même les jeux qu'on avait à l'époque sur PS1, sur les consoles où il y avait pas encore internet, PlayStation 2, il y avait toujours des bugs. Mais là, depuis la génération d'avant, ça commençait déjà un peu à partir en couille. Mais cette génération-là, j'ai l'impression que les mecs, ils disent, bon, bah, c'est pas grave, on sort le jeu, il est prévu pour le 13 novembre, on sort à cette date-là, et puis s'il faut sortir un patch qui corrige le bug et tout, et bah, on sortira les patchs qui vont corriger. Toi, quand tu joues au jeu, t'as tapé ton jeu, tes 50 boules parce que tu voulais le prendre en day one, tu vois. Et pour te faire plaisir, et bah tu joues avec une expérience beaucoup moins bonne que le mec qui va y jouer dans 6 mois. Et donc du coup, t'as un goût amer,
pas
quoi.
Pas 6 mois, TH. Je prends pour exemple là les jeux qui sont en solde en ce moment sur Steam. Il y a des jeux qui sont sortis il y a pas longtemps, genre Deus Ex Mankind Divided qui est en solde, tu vois.
Ouais.
Et qui a été patché depuis. Donc ça veut dire que 2-3 mois après la sortie du jeu, déjà, tu payes le jeu moins cher. Et en plus, t'as le jeu patché.
Ouais, exactement.
Et après, on s'étonne que les gens n'achètent plus les jeux Day One. Bah ouais.
Par exemple, j'ai l'exemple de The Witcher 3. The Witcher 3, le jeu est sorti, il était fini.
Il était propre.
Voilà, le jeu était propre. Tu pouvais l'acheter dans le commerce. Et même s'il n'y aurait pas eu de mise à jour, ça aurait été un truc convenable. Après, tout ce qui est sorti comme patch derrière, c'était que des patchs d'amélioration. Parce qu'il y a eu des retours des joueurs. Ils trouvaient que le système de combat était pas terrible. Donc, du coup, ils ont ajouté un mode alternatif. Après, il y avait tout ce qui était l'inventaire qui était pas très lisible. Ils ont travaillé l'ergonomie de l'inventaire. Et du coup, il y avait plein de trucs qui a été patché au fur et à mesure. Mais on était dans le détail de l'amélioration. Enfin, moi qui est en train de le refaire en ce moment, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable, c'est vrai. Mais quand j'ai fait le jeu Vanilla, je l'ai fait à la sortie, j'avais kiffé le jeu aussi, tu vois. Alors que, par exemple, tu vois, un jeu comme Homefront: The Revolution, si le jeu sort dans un état catastrophique avec des temps de chargement, des bugs, un jeu qui freeze, bah c'est sûr que les premières choses qui vont sortir, déjà dans la presse, ça sera des mauvaises notes. Et même, par exemple, si quelqu'un voudrait faire le jeu plus tard, peut-être qu'il va pas passer par jeu-là, tu vois. Il va dire, attends, mais ce jeu-là, il a eu 4 sur 20. Enfin, voilà, je vais pas me lâcher. Alors que ça se trouve que le jeu n'a plus rien à voir avec ce qui était sorti à la base, quoi.
Et encore, tu vois, là, Homefront, Pixel pourra confirmer, c'était un cas un peu extrême, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que le jeu, tu sens quand même qu'ils l'ont sorti parce qu'ils n'avaient peut-être pas le choix quelque part, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait plus de pognon, tu vois. Enfin, je crois savoir Pixel, c'est un jeu qui a eu un développement un peu chaotique.
Ouais, bah ça fait 4 ans, je crois, qu'ils étaient dessus avec plusieurs développeurs, plusieurs éditeurs, plusieurs reboots. Et comme je l'avais dit dans le test, dans une ancienne émission, c'est que tu sens que le jeu porte des... Il y a quand même quelques cadavres de gameplay qui restent dans le jeu, qui sont là, tu les vois, mais ça va pas plus loin parce que c'est juste des cadavres qui viennent d'anciens reboot, quoi, d'anciennes versions. Le jeu, comme je l'avais dit dans le test, il est sorti beaucoup trop tôt. Pour moi, c'est un jeu qui aurait dû sortir maintenant. Et même encore, j'irais peut-être plus tôt l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ça aurait peut-être été trop tard. Mais là, ça aurait été maintenant, novembre, mois de décembre, ça aurait été le bon moment. Vraiment le moment idéal pour en vendre.
Tu parles pas de cette année, j'espère.
Si.
Ah non, cette année non.
Non mais là tu fais le troll là. Mais
non, je fais pas le troll.
Ce qu'il veut dire c'est que cette année là c'est l'embouteillage en fait. Je citerai des chiffres tout à l'heure, vous allez voir, ça c'est effarant. Watch Dogs 2, c'est du jamais vu. Hein.
C'est juste pour ça que je te dis ça. Hein.
Je sais pas, mais en tout cas, au niveau du développement pur du jeu en lui-même, maintenant, ça aurait été bon.
Peut-être que ouais. Après, en termes de finition, tout
mais
ça...
Mais c'est vrai, c'est clair qu'au niveau marketing, ça aurait été pas été bon de le sortir maintenant, ouais.
Non, je pense que ça aurait été un suicide commercial cette année, vraiment.
Ils auraient dû le sortir quand, alors février, mars?
En tout cas, ça serait beaucoup plus viable que maintenant, quoi. Parce que là... Pouf. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que... Prends un jeu comme Deus Ex, Mankind Divided. Le jeu... En termes de gameplay, c'est un jeu qui est terminé. Mais par contre, ce qui ne va pas sur Deus Ex à sa sortie, et ça c'est un truc, il aurait fallu quelques semaines pour le corriger, c'était l'optimisation.
Bah comme Dishonored 2 sur...
Voilà. Mais sauf que, mets-toi maintenant à la place du gars qui a acheté le jeu en août, genre moi, tu vois. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de soucis de framerate, mais il y en a, c'était assez critique. Et maintenant... Dis-toi que le gars, il a payé son jeu plein pot, 50 balles, et qu'aujourd'hui, pendant les soldes, il le voit à moins 50%. Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Si, il y a un très gros
problème. Est-ce qu'on se fout pas de la gueule des gens? Attends, le mec, il a acheté le jeu plein pot, il s'est tapé tous les bugs, il a fait le bêta test pour Square Enix, et derrière, on lui dit, bah écoute, en plus, maintenant que t'as fini le bêta test, on va le faire payer deux fois moins cher aux gens, quoi.
Et il s'est cassé la gueule lui aussi d'ailleurs en parlant des parce que si on depuis tout à l'heure on parle des jeux qui se cassent la gueule mais lui il en fait partie aussi hein, des jeux qui sont pas bien vendus.
Je sais pas enfin j'ai pas les chiffres de vente donc sur
mais on sait qu'il est en dessous des attentes quoi.
Ouais, il est en dessous des attentes, ça on le sait par contre, ça c'est ouais. Sûr. Mais après est-ce que c'est au niveau d'un Watch Dogs 2 par exemple? Encore une fois je fais du teaser mais vous allez voir c'est savoureux.
Et en parlant de jeu qui s'est justement qui s'est très bien vendu mais qui a été déceptif en No Man's Sky, est-ce qu'il y a des nouvelles?
Ouais, alors justement, bah un jeu qui s'est très bien vendu mais qui a été beaucoup remboursé. Ils sont sortis de leur sommeil un peu comme des vampires, tu vois, ils sont sortis du cercueil. On pensait qu'ils s'étaient barrés avec la caisse hein parce que je rappelle que depuis la sortie du jeu, ils ont fait les morts.
Ouais.
Et apparemment, ils bossaient. Et de ce qu'ils disent, bon déjà visiblement ils ont pris conscience du problème hein, j'ai envie de dire encore heureux. Et ils ont annoncé qu'une grosse update allait sortir prochainement qui allait rajouter donc la création de base dans le jeu. Donc c'est un jeu qui va se transformer en jeu de craft, quoi, quelque part.
Ouais, Minecraft.
Un peu comme Minecraft, etc. Et tant mieux pour ceux qui ont acheté le jeu, tu vois. Vaut mieux qu'il y ait du suivi que pas du tout, quoi. Tu vois.
Ouais, exactement.
Au moins, t'auras pas complètement perdu ton argent. Et c'est tant mieux. Mais par contre, pourquoi je voulais parler de cette news aussi, c'est que, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que, pour un jeu qu'on nous a vendu comme étant un jeu de contemplation, machin bidule, et que, derrière on nous dit, bah écoute, on va te sortir une update où on va faire du craft, où tu pourras créer des bases, ça colle pas vraiment avec le concept du jeu, soi-disant, qui est de se balader. J'ai toujours trouvé curieux qu'on nous vende ça comme une expérience contemplative alors que derrière tu passes la moitié du temps dans un menu à gérer un inventaire. Et voilà, bah ça confirme ça quoi. C'est-à-dire que en termes de game design, No Man's Sky c'est un peu le bordel quoi.
Eh mais peut-être que cette fois-ci on aura vraiment du multijoueur qui avait été retiré du développement du jeu, enfin pas retiré mais qui avait pas été disponible dans les versions finales quoi. Sean Murray plusieurs fois à plusieurs reprises a dit oui il y aura du multijoueur quoi. Et quand le jeu est sorti, bah il y avait le coup des étiquettes quoi qui est vraiment pour alors lui le truc le plus honteux quoi qu'on puisse trouver. Et le fait que maintenant ça va se transformer en Minecraft dans l'espace quoi en fait le jeu. Voilà. Enfin le concept c'est vrai que le truc est assez bancal quoi. Parce que là pour l'instant faire No Man's Sky, bah déjà j'ai pas l'impression que les gens ça va être un jeu qu'ils vont retenir quoi.
Ah si ils vont le retenir mais pour les mauvaises raisons en fait, je pense. Parce que pour le coup, No Man's Sky, je pense que c'est un jeu qui a eu un énorme impact en termes de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je veux dire, quand même, grâce à No Man's Sky, on a eu Valve qui a dit « Ce serait bien, les gens, que vous mettiez pas des screenshots bullshit sur vos fiches Steam. »
Oui, mais, non,
vois,
mais c'est... Je voulais dire, tu sais, impact, ce qu'il a apporté dans le monde du jeu vidéo, quoi. Pas les choses... Oui. pas toutes les merdes qu'il a apportées et toutes les... Bah, le fait déjà que Steam réagisse à ce que tu as dit, c'est quand même assez fort, quoi.
Voilà. Bon... on parlait Watch Dogs, on y va. Watch Dogs, des ventes pas vraiment au rendez-vous. Pourquoi elles sont pas vraiment au rendez-vous? Parce qu'il y a des chiffres, des suppositions par rapport aux chiffres qui ont été dévoilés cette semaine. À savoir que, on sait que Watch Dogs 2 est deuxième au niveau des charts UK.
Bah, c'est cool ça.
Ouais. Sauf que, Le premier, c'est Call of Duty Infinite Warfare, et on sait qu'il s'est pété la gueule. C'est-à-dire que Call of Duty Infinite Warfare se vend beaucoup moins que prévu. Il se serait vendu à 80 000 exemplaires. Sachant que, petite précision, il se trouve que, d'après ce qu'a pu réunir comme info Eurogamer, parce que c'est là qu'on a trouvé l'info, que il n'y a pas un gap énorme, quoi, si tu veux. Ils étaient au coude à coude, apparemment, pour la première place. Donc, ça veut dire qu'il est aux environs de 80 000 exemplaires. Maintenant, on connaît les chiffres qu'avait fait Watch Dogs 1 à sa sortie. 380 000 exemplaires. Donc, ça veut dire qu'il y a un gap de 300 000 exemplaires, quoi. Entre Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2. Et là, j'ai envie de dire justice. Justice, putain, justice. Il y a des choses qui se payent. Alors, après, c'est triste que ça s'abatte sur un jeu, une suite, qui apparemment est réussie. Parce que moi, c'est des retours que j'ai eus, ils sont très positifs. Hein. Je connais des gens qui avaient été déçus du 1 et qui ont bien apprécié le 2. Et c'est dommage que, pour le coup, si le jeu est aussi réussi que ça, qu'il se fasse sanctionner alors qu'il est bon. Mais d'un autre côté, ça prouve que on ne peut pas faire n'importe quoi et ne pas être puni, quoi.
Ouais, mais enfin, Watch Dogs 1, c'est un jeu que j'avais fait à sa sortie. J'ai pas un mauvais souvenir ni un bon souvenir du jeu, quoi. C'est un jeu qui est totalement générique au possible. Du coup, Watch Dogs 2, bah, si tu veux, j'avais pas acheté la suite d'un jeu qui m'avait fait ni chaud ni froid la première fois, quoi. Et pourtant, c'est vrai que le jeu a l'air mieux que le premier, quoi. Ils ont compris certaines choses, quoi, de ce que j'ai pu entendre. Mais ça me donne pas du tout plus envie que ça, pas plus que le prochain Assassin's Creed. Et on sait que en ce moment, les jeux Ubisoft aussi se vendent de moins en moins bien, quoi.
Alors après, ça dépend des jeux. Hein.
Non, par exemple, je parle des jeux vraiment qui prennent ce schéma-là. Hein.
Ouais, tu parles pas de Rainbow Six Siege, pour le coup, ou The Division.
Voilà, The Division, qui a eu, lui, je crois, meilleur démarrage d'une nouvelle licence, quoi, de chez Ubisoft. Je parle vraiment des jeux qui sont faits dans ce schéma-là, quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils prennent un moule, hop. Ils changent juste la skin. Bon, alors, on met quoi? On met les dinosaures. Là, on met quoi? On met les hommes préhistoriques. Et puis, on se sert ça, quoi. C'est du réchauffé, mais t'as aucune surprise, quoi.
Et du coup, ça prouve, si tu veux, qu'on peut pas faire n'importe quoi avec une licence. C'est que même si après tu fais de la qualité, ben, écoute, le problème, c'est que le nom de la licence lui-même, il est un peu sali, quoi. Et pour rattraper ça, c'est très compliqué, quoi, en fait.
Ouais, bah, tu vois, par exemple, Ubisoft, à l'époque, quand ils avaient sorti le premier Assassin's Creed. Moi, j'avais fait le premier Assassin's Creed, je l'avais acheté d'occasion. Longtemps après, tu vois, donc je l'avais payé, je sais plus, 20€, un truc comme ça. Donc je fais le premier Assassin's Creed, je commence à jouer, je trouve ça super et tout, l'ambiance et tout, la claque que c'était à l'époque, la next-gen, quoi. C'était pour moi vraiment Assassin's Creed qui l'avait ramené. Et puis après, je commence à faire toujours la même chose, toujours la même chose. Et donc là, le premier, il m'est tombé des bras. Et là, le 2, bon, le premier, c'était toujours la même chose, c'était répétitif et tout ça. Bon, bah, j'ai pris le 2 d'occasion, mais vraiment sans plus de conviction que ça. Et là, il y avait vraiment un gap entre le premier Assassin's Creed et le deuxième. Et j'ai kiffé. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment génial. Et j'ai l'impression qu'avec Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2, c'est la même chose, en fait. Il y a un gap entre les deux. Et c'est vrai que c'est dommage pour Watch Dogs 2, mais peut-être que les gens aussi, ils ont joué au premier Watch Dogs et ils ont trouvé ça pas terrible vraiment comme expérience, quoi. C'était un truc, c'était pas un mauvais jeu, hein. Watch Dogs premier du nom, c'est pas un mauvais jeu du tout. C'est juste un jeu, mais banal au possible, quoi. C'est genre le jeu banal. C'est comme si tu étais allé voir Transformers au cinéma, quoi. Tu sais très bien ce qu'il va y avoir dedans. Et t'auras pas de surprise, t'as même pas un petit truc qui te dit ouais, bon peut-être le jeu était générique etc, mais l'histoire était sympa, tu vois. Par exemple dans Assassin's Creed, moi ce qui m'avait fait j'avais bien aimé, c'était un peu tout le délire qu'il y avait autour de la méta-histoire. Je me suis dit ouais, c'est vraiment cool, tu vois. En plus ça, c'était à l'époque, c'était genre, c'était la méta-histoire, elle arrivait en 2012. Et au début je me suis dit putain, ça se trouve pour le dernier jeu qui va sortir en 2012, ça va être un truc de ouf, qu'ils vont préparer un jeu de malade et tout ça. Donc il y avait ce petit truc, ce petit biscuit qu'il y avait, quoi. Alors que dans Watch Dogs, il y avait pas du tout ça, quoi.
Voilà. Bon, un autre jeu qui s'est planté. Alors là, pour le coup, je suis pas persuadé que ce soit tant dû au jeu précédent qu'à sa date de sortie, quoi. C'est Titanfall 2.
Ouais.
Titanfall 2, ou je sais pas. Franchement, les gars, j'aurais aimé être à la réunion marketing, quoi, où les mecs, ils se sont dit putain, j'ai une idée de génie. On va sortir Titanfall 2 entre Battlefield et Call of Duty. En plein milieu, tu vois, des deux plus grosses ventes FPS de l'année, on va sortir Titanfall 2.
Et surtout, ce qui est plus con, c'est que Battlefield, ça leur appartient aussi, tu vois, c'est Electronic Arts.
Oui, tu vois, c'est en plus. Ils te soutiennent comme discours derrière que ouais, non, mais on pensait que en fait, c'était pas vraiment les mêmes jeux, tu vois, Titanfall, il était plus là pour concurrencer Call of. putain de bande de débiles, mais c'est pas possible d'être aussi con comme un balai, putain, mais c'est pas possible. Donc, Titanfall 2 s'est planté. Il y a eu un changement de politique drastique vis-à-vis du jeu, du coup, parce que bon, il faut quand même essayer de faire vivre le jeu, quoi, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'ont décidé les pontes d'Electronic Arts? Eh bien, ils ont décidé d'adopter une formule à Rainbow Six Siege, à savoir que toutes les updates du genre armes, nouvelles maps, enfin tout ce qui impacte le gameplay, quoi, si tu veux, c'est inclus dans des mises à jour gratuites.
Et ça, c'est cool.
Ils ont bien dû se rendre compte, à mon avis, que s'ils continuaient à essayer de proposer un season pass, ça allait être compliqué, quoi. Surtout qu'apparemment, il n'y a plus beaucoup de monde qui y joue à Titanfall 2. Moi, des retours que j'ai eu là, actuellement, pour trouver des matchs, alors que le jeu, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, c'est la galère.
Oh, putain.
Du coup, encore une fois, c'est bien. Mais est-ce que déjà, c'est pas une politique qu'il aurait fallu appliquer dès le départ et accessoirement sur tous les jeux Electronic Arts?
Bah, tu rêves.
Parce que,
hein. Il y a que voir Battlefield juste à côté, ou même, Star Wars Battlefront, quoi, les DLC bien carottes, ils te les glissent.
Season Pass à gogo et tout, voilà. Et donc, ok, mais est-ce que c'est pas trop tard, quoi?
Ah, si, bah, si. Voilà. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est qu'ils pleurent une fois que le jeu est sorti et qu'ils vendent pas. Et après, ils disent, bon, on va offrir les DLC gratuitement, genre, on est gentil. Dans ce cas-là, Electronic Arts, je veux bien, mais faites-le avec toutes les autres licences. Et même, j'ai l'impression que les joueurs, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'air d'être un peu moins teubés, tu vois, par rapport à avant. Normalement, ça devrait être la norme, tu vois. On devrait récompenser les jeux qui prennent pas les joueurs pour des cons, quoi. J'ai envie de dire, tout à l'heure, je parlais de The Witcher, mais je vais encore le remettre devant. The Witcher sort des DLC qui sont vraiment des extensions. Il y a vraiment un travail qui a été fait derrière. Et ce qui est dommage, c'est que de se dire, il faut vraiment qu'on en arrive là pour que les éditeurs, du coup, ils deviennent sympas, parce que je suis quasiment sûr et certain que c'était pas ce genre des trucs qu'ils devaient offrir. Et oui. Là, vu que le jeu s'est totalement vautré, bah, les gens, ils disent non, stop, on n'en peut plus. Et, tu vois, par exemple, je vois un jeu comme Evolve, il s'est complètement cassé la gueule. Il y a Gears of War qui se vend beaucoup moins bien que les précédents, même, il se vend beaucoup moins bien que le Judgment. Halo 5 qui se vend beaucoup moins bien. Call of, ses ventes continuent de baisser d'année en année. Assassin's Creed, c'est pareil. Les gens, peut-être, commencent à réfléchir, quoi. Mais je sais, quasiment où sont planqués la moitié des personnes, ils sont tous en train de jouer à GTA 5 online, quoi. Ouais. C'est ça, non, mais c'est vrai, les gens n'achètent plus de jeux parce qu'ils jouent soit à GTA 5, soit à Minecraft, ou...
D'ailleurs, si vous jouez en ligne, Pixel cherche des partenaires de jeux sur GTA 5.
Oui, des personnes qui ont un bon micro, et voilà. Parce que j'en ai marre de jouer avec des gens qui parlent chinois ou russe, quoi, donc, voilà. J'aimerais bien jouer avec des gens qui parlent français, voilà.
Et tu joues sur PC, c'est ça?
Sur PC, voilà, GTA 5 PC.
Ouais. Mais et du coup, je sais pas si il est cross-platform GTA 5 online.
Non, je pense pas.
Non.
C'est genre vraiment. C'est que vraiment. Ouais, c'est verrouillé. Ouais, genre même, tu vois, par exemple, c'est Xbox 360 avec Xbox 360, etc. Xbox One avec Xbox One, PS4 avec PS4, PS3 avec PS3 et PC avec PC.
D'ailleurs, justement, GTA 5, l'exemple parfait. Enfin, je veux dire, suivi exemplaire. Le jeu, il est tout le temps dans le top des ventes Steam. Là, actuellement, pendant les soldes, il est dans le top des ventes Steam.
Et même sur le top des ventes PSN. Hein.
D'ailleurs, Pixel, je te préviens, je vais peut-être le prendre. Donc, on pourra peut-être... Mais
enfin,
je me tâte encore.
Mais après, est-ce que tu voudras jouer au online, quoi?
Bah...
Ah, le online, il est très bien.
Le online, il est bien, mais je veux dire, après, c'est quand même un investissement de temps, quoi. C'est limite un MMO, bordel, quoi. C'est ça le truc.
Mais le truc, c'est justement, c'est que là j'ai le temps en ce moment.
Ah oui,
plus tard j'aurais peut-être pas. C'est le grand avantage d'être au chômage, tu sais, tu as le temps. Bon, et du coup, bah écoute, on va terminer avec Ubisoft, parce que Ubisoft, ils ont annoncé plus ou moins la même chose, et d'ailleurs ils faisaient déjà la même chose sur Rainbow Six. Mais Ubisoft a annoncé qu'ils allaient appliquer cette politique à tous leurs jeux. Attention, hein. Enregistrez bien les gens, c'est un moment exceptionnel, ça n'arrivera pas très souvent, hein. Bravo Ubisoft, vraiment, bravo. Pour une fois que vous prenez une bonne décision, franchement, chapeau. Je suis abasourdi, je ne pensais pas que ça pourrait venir de chez vous, mais écoutez, avoir tous les DLC qui impactent le gameplay qui sont gratos. Voilà.
Non mais enfin, Ubisoft, ça me fait bien rire parce que enfin eux c'était pour moi c'était les pires en la matière quoi à l'époque. Je veux dire ils ont fait sur Prince of Persia qui était sorti en 2008 le reboot. Je joue au jeu, je finis le jeu. Bah, le jeu me dit, va te faire foutre, t'as pas la fin. Je dis quoi? Il faut payer l'épilogue, il faut payer l'épilogue. J'ai regardé, j'ai fait, putain, allez vous faire foutre Ubisoft, allez vous faire foutre.
Surtout que l'épilogue était merdique.
Non, mais il était merdique, mais du coup, ce que j'ai fait, moi, je suis parti regarder la fin sur Internet comme un connard. J'allais pas payer pour ça. Non, mais c'était aussi pareil dans Assassin's Creed 2. T'avances dans le jeu, chapitre 10, 9. Ouais, c'est bien. T'arrives au chapitre 11, et après le chapitre 12 et 13, bah non, en fait, ils sont dans le jeu. Mais on te fait sauter au chapitre 13 directement dans le chapitre 14 dans le jeu, donc il y a deux chapitres qui sont genre prévus dans le jeu. Mais genre si t'as pas payé, bah la nénette qui est dans l'animus, elle te dit une belle phrase sympa. Oui, bah on verra ça plus tard, tu vois. Et du coup en fait les chapitres, il faut payer alors que tu vois bien qu'ils ont été prévus dans le jeu de base parce qu'ils étaient insérés vraiment entre deux chapitres, tu vois, c'était des choses qui se passaient pendant l'aventure. Mais du coup, enfin Ubisoft, ils ont quand même scié le jeu en deux, ils ont enlevé un contenu qui était dans le jeu pour justement te le vendre plus tard. Et bah du coup là, si Ubisoft fait une politique à la Rainbow Six, je leur tire mon chapeau moi aussi.
À noter quand même que c'est une interprétation de ma part, hein, parce que la phrase exacte, ils veulent que les gens puissent profiter de l'expérience complète du jeu sans acheter de DLC. Je pense que c'est ça, mais après peut-être que ça sera peut-être plus une politique à la CD Projekt, ce qui sera pas dégueulasse non plus. Hein,
ah non, mais après, s'ils font des trucs à la CD Projekt ou bien comme ils ont fait pour Rainbow Six, c'est sûr que dans les deux cas, ça sera intéressant à voir. Mais après, moi, ce que je comprends, on veut pas nuire l'expérience complète du joueur. Pour moi, ça veut dire cosmétique, quoi, en fait.
Quelque chose à ajouter, Pixel?
Non.
Non. Eh bien, très bien, on va pouvoir terminer ce podcast avec un jeu du moment. Et oui, c'est la surprise de cette semaine. Et c'est d'autant plus une surprise que ça l'a été pour moi. C'est-à-dire que ce jeu, il est sorti un peu nulle part. Je suis tombé dessus sur Steam par hasard comme ça. Je me suis dit, putain, il a des reviews qui sont extrêmement flatteuses et tout. Bah écoute, en plus, ça a l'air d'être un beat'em all en 2D assez péchu. Bah écoute, allez, vas-y, je craque, clac. En plus, ça coûte quoi, 10 balles. Allez, vas-y, on y va. Et je vous en parle cette semaine. Ce jeu, c'est Icy. Voilà. Donc, Icy, qu'est-ce que c'est? Alors, Icy, c'est un beat'em all en 2D, vu de côté, donc. Mais ce n'est pas qu'un beat'em all. C'est aussi un simili Stanley Parable. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué à Stanley Parable, en gros, Stanley Parable, si tu voulais, c'est un jeu un peu méta, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se moque un peu des jeux vidéo, tu vois, de leur mécanique, etc. Ou t'as un narrateur qui te nargue tout au long de l'expérience, etc. Et Icy, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, en gros, vous avez un beat'em all super péchu avec un narrateur. Sauf que, on va dire que là, la situation est un peu inversée, c'est-à-dire que le narrateur, tu vas un peu le martyriser, quoi. Parce que le narrateur, qu'on pourrait aussi appeler le développeur, parce que tu sens qu'en fait, c'est le développeur du jeu, il aimerait bien que tu suives son scénar. Mais le problème, c'est que toi, t'es pas un joueur obéissant et tu fais des trucs qu'il a pas prévu que tu fasses, tu vois. Et donc, quand tu fais des trucs qu'il a pas prévu que tu fasses, il commence à s'énerver. Et voilà, ça, c'est Icy. C'est un peu pour ça que j'ai craqué pour ce jeu aussi, parce que quand j'ai vu la présentation, je me suis dit, tiens, ça a l'air curieux. Et en plus, la partie beat'em all a l'air vachement péchue, parce que si vous voulez, C'était un peu le défaut de Star Allies Parable aussi, c'est que bon, c'était plus une expérience qu'un jeu, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, certes, ils se moquent ouvertement des mécaniques dans les jeux vidéo, de la notion de liberté, etc. Mais quelque part, tu joues pas vraiment, quoi. Tu suis un chemin tout tracé et voilà. C'est plus une expérience interactive. Et là, on a un vrai jeu avec ce narrateur là qu'on s'amuse à tourner en bourrique. Et écoute. J'ai passé un très bon moment. Je spoil, en fait. J'avais prévu de faire une conclusion toute belle et tout, mais ICE, c'est vraiment un jeu indépendant chinois, je précise, qui est sorti de nulle part et qui m'a mis une petite claque, quoi. Franchement, alors, certes, le jeu a un petit défaut en ce sens que si t'as joué à Stanley Parable, il y a certaines blagues, on va dire, qui tombent un peu à plat parce que tu les connais déjà, mais il a des trucs bien à lui aussi. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le système de combat est absolument génial, quoi. Alors, il est un peu simple, c'est en gros, c'est pas compliqué, hein. C'est un beat'em all, t'as des combinaisons de touches. En fonction des combinaisons de touches que tu utilises, ben ça sort certains coups, tu vois. Le truc, c'est que comme c'est des combinaisons de touches qui sont assez simples, genre tu fais X, 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 Y, ça va te sortir des mouvements de fou, tu vois, tu vas faire des enchaînements. La prise en main est très intuitive, très facile si tu veux, et comme t'as une chier de mouvements en plus que tu peux récupérer, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, il y a la possibilité de débloquer avec des petits sous-sous des nouveaux mouvements, il y a moyen d'augmenter les capacités de ton personnage, et en plus il y a moyen de rendre les mouvements que tu as déjà plus puissants.
Mais est-ce et que, tu sais pas, parce que moi il y avait un jeu comme ça en 2D que j'avais bien apprécié, mais je trouvais quand même le gameplay assez simple, c'était Dust An Initial Tale, c'était un peu, tu vois, un beat'em all comme ça, et je sais pas si toi tu l'as fait, parce que je voudrais te poser une question par rapport à ça, en fait.
Ouais, ouais, j'ai terminé Dust.
Parce qu'en fait, je trouve que Dust, le gameplay était trop simple, en fait, pour ce genre de jeu-là, et je voulais savoir si c'était le cas pour... C'était un peu dans le même délire ou pas?
Comment dire? En fait, ICE... Il est un peu plus complexe en ce sens que...
Parce que moi, le reproche que je faisais à Dust, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de combos, en fait. Il y avait très peu de variations de combos, quoi. C'était, dans tout le jeu, tu devais en avoir que 3 ou 4, et ça faisait vraiment pas...
Ah non, 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 là, t'as beaucoup plus de variations de combos.
D'accord, ouais, ouais.
C'est ça qui est bien, c'est que, en fait, tu peux jouer comme dans Dust, c'est-à-dire que si tu utilises les combos qu'on te donne de base et que tu améliores que ceux-là, ben ça sera comme Dust, quoi, t'auras pas énormément de combos. Par contre, il y a plein de combos à débloquer, en fait, derrière. Et pour les sortir, du coup, ça demande une certaine gymnastique.
D'accord.
Ça, plus le fait que quand même, il y a certains ennemis qui se défendent, quoi, si tu veux. Tu peux pas tout le temps taper, parce qu'en fait, les mecs, ils se protègent, et derrière, ils te contrent, en fait. Enfin, ils te maravent la gueule, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ce qui va se passer généralement, c'est que les mecs, ils se mettent en défense, tu vois. Et à un moment donné, quand ils vont essayer de te frapper, il y a une espèce de signal qui va apparaître au-dessus d'eux. Et ça veut dire qu'ils vont te sortir une grosse attaque dans la gueule. Il faut que tu esquives à ce moment-là. Et justement, c'est là où je voulais en venir. La clé de ICE, un peu comme dans The Bayonetta, c'est l'esquive.
Oui, parce que t'as un bonus qui ralentit le temps.
Voilà.
Dans Bayonetta. Et dans celui-là, donc, est-ce que t'as un truc qui...
Et justement, comme dans Bayonetta,
ouais,
dans ICE, tu peux lancer une esquive au dernier moment, et cette esquive va ralentir le temps. À ce moment-là, si t'arrives à esquiver, tu peux déclencher un contre. Tu sais, un peu comme dans les animes, là, genre, t'as le mec qui court vers le gars avec son sabre et tout, et là, clac, t'as un trait à l'écran, tu vois, pour montrer qu'il a coupé, et il se la pète et tout avec son sabre. Bah là, c'est exactement ça. Tu vois.
D'accord.
Par contre, le reproche que je ferais à ce système d'esquive, c'est qu'il est un peu godlike. c'est-à-dire que c'est pas tant en termes de fenêtre, si tu veux, parce qu'il faut quand même avoir un certain timing, c'est surtout en termes de distance, en fait. En gros, t'as un ennemi qui est à l'autre bout de l'écran, il te balance un laser sur la gueule, imaginons, tu fais l'esquive à ce moment-là, ton personnage, si t'appuies sur B au bon moment, il se téléporte sur lui et il le slash.
Et la fenêtre, elle est vraiment grande ou bien il faut
alors
quand même,
c'est un timing à prendre quand même, hein. Il y a un timing à prendre, mais si tu veux, au début tu galères un peu,
ouais,
mais
normal,
au bout de quelques heures de jeu, tu maîtrises tellement bien le système que si tu veux, tu le sors systématiquement, quoi. Voilà.
D'accord.
Ouais. Mais d'un autre côté, le système est suffisamment prenant pour que t'arrives à ce niveau de maîtrise là. Bon, il faut dire que le jeu est très court aussi, hein. Je précise, le jeu il se termine en 3-4 heures à tout péter. Dans une run normale, mais par contre il faut savoir que le jeu a plein d'à côté, mais J'y reviendrai après.
Mais est-ce que le jeu aurait été meilleur s'il aurait fait 20 heures?
Non, je pense pas. Le problème, c'est pas tant la durée de vie, c'est le fait que le jeu devient trop facile au bout d'un moment. Une fois que tu as maîtrisé les subtilités du système, tu deviens intuable. Parce que le personnage a des coups qui sont, à mon sens, trop cheatés, quoi. Moi, j'ai trouvé un combo, tu vois, c'est le combo ultime. C'est, en gros, tu esquives, tu slashes le mec. Alors, sachant que le slash, c'est pas un insta-kill, hein. S'il est résistant, tu vas pas le tuer tout de suite, tu vois. Il faut faire plusieurs fois d'affilée, quand même.
C'est pas Yojimbo de Final Fantasy, quoi.
Voilà. Sauf que, quand tu fais une esquive et que tu slashes, derrière, il y a des espèces de cristaux qui vont apparaître à l'écran, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu peux générer une attaque concentrée, si tu veux. Genre, tu sais, ton personnage, il rentre son épée dans le sabre, et puis il se concentre, tu sens qu'il y a l'énergie qui s'accumule, puis t'as une vague d'énergie qui explose à l'écran, quoi. Et là, ça touche tous les ennemis à l'écran.
Manga, quoi. Hein.
Voilà, exactement. Mais c'est du pur manga. Hein. C'est chinois, mais c'est pur manga. Pur délire manga. Le truc, c'est que ces deux attaques-là, l'esquive et le slash qui pète à l'écran, tu peux les améliorer pour augmenter les dégâts. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que t'as maîtrisé un peu le système, c'est la boucle infinie, quoi. C'est-à-dire que tu esquives, slash, tu fais des dégâts, concentration, slash, tu fais des dégâts sur tout le monde, sachant qu'en plus, une fois que t'as fait suffisamment de dégâts à un ennemi, il va être étourdi, et là tu peux le finir, quoi, si tu veux. C'est insta-kill, tu le finis.
Mais là, tu parles de combat des boss ou bien parce que les ennemis normaux, en général, t'as pas le temps de...
Ah non, les ennemis normaux, justement. Les ennemis normaux. Et une fois que tu finis un ennemi, rebelote, tu peux refaire une concentration d'énergie, tu vois. Alors, je te laisse imaginer, même contre un boss, il y a des petites merdes à côté qui t'attaquent. Oh, qu'est-ce que tu fais contre un boss? Tu attaques les petites merdes, slash... Grosse attaque, le boss est étourdi, tac, tu lui fais une grosse attaque, allez, on rebelote, et en fait, c'est infinisation, quoi. Une fois que t'as maîtrisé le système, en fait, genre, le dernier boss du jeu, le pauvre, il a souffert avec moi. Et là, si tu veux, le paradoxe du jeu, je trouve, c'est que au début, tu galères. C'est-à-dire que si tu cherches pas à maîtriser le jeu, tu vas galérer, mais jusqu'à la fin, quoi. Et à mon avis, tu vas bien la galérer. Genre, l'avant-dernier boss, tu vas en chier, quoi. Si tu maîtrises pas le système, c'est mort. Mais dès que tu maîtrises le système, finger in the news. Même le boss le plus dur du jeu, easy, quoi. Et ça, c'est mon gros problème avec le jeu. Mais en même temps, c'est pas tellement un gros défaut, parce que si tu veux ce défaut-là, tu t'en rends compte une fois que t'arrives à la fin. Mm-hmm. Pour le coup, t'as une sensation de puissance, quoi, si tu veux. Mais derrière, le problème, c'est que comme tu vas chercher à... rejouer certains passages du jeu pour voir des scènes que t'as pas vues, parce que je précise que le jeu a énormément de fins, en fait. Il y a énormément de trucs cachés, etc. Et il y a un système, si tu veux, qui te permet de te téléporter entre les différents checkpoints qu'il y a dans le jeu. Et du coup, tu utilises énormément ce système-là pour débloquer des scènes avec le narrateur, des trucs comme ça, quoi. Et pour, accessoirement, trouver la vraie fin.
Parce que tu parles de zones cachées, il est construit un peu comme un Metroidvania.
Alors, il y a des embranchements, quoi, si tu veux, mais on peut pas appeler ça un Metroidvania. Pour moi, un Metroidvania, c'est un jeu où, à minima, tu vois, tu débloques certains raccourcis qui vont te ramener, etc. Là, pas du tout. C'est un jeu qui est très linéaire, mais dans les décors, il y a des endroits qui sont cachés, ou il y a des actions cachées à faire. Typiquement, pour vous donner une idée, au début du jeu, t'as un pont, et le narrateur te dit, Icy, activa le pont, tu vois.
Ouais.
Et toi, au lieu de ça, tu te jettes dans le vide. Et là, le narrateur, il pète un câble, il fait, mais quoi? Putain, mais t'es débile ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas faire ça. Et là, tu te rejettes dans le vide. Et là, il s'énerve encore plus. Et là, tu te rejettes dans le vide. Et là, il s'énerve encore plus. Et ça te débloque un passage optionnel.
D'accord. Et, en fait, il faut jouer avec le jeu, quoi.
Et c'est ça qui est génial, en fait. Au-delà du fait que le gameplay, franchement, même s'il est un peu trop simple sur la fin, il est super addictif. Il y a un vrai côté, tu vois, je vais retourner le jeu pour trouver les secrets, en fait. Et justement, un autre truc qui est très réussi dans ce jeu, c'est la narration. La narration, tu sais, au départ, elle est un peu nébuleuse, comme dans un Dark Souls, quoi, si tu veux. Mais ils ont caché la narration en plein endroit, en fait. Notamment, moi, c'est un des trucs les plus géniaux que j'ai trouvé, il y a de la narration même dans les achievements. C'est-à-dire, t'as des bouts du scénar dans les achievements, quoi. Ils sont plus là, si tu veux, pour te guider, pour comment trouver la vraie fin, en fait.
D'accord.
Que c'est pas vraiment des vrais achievements, quoi, si tu veux. Enfin, c'est pas des achievements qui sont là pour te dire,
oui.
Je suis trop fort, elle est plus grosse que les autres.
Bravo, vous avez fait un combo de 50 kills de suite. Enfin, c'est genre,
voilà.
c'est
pas du tout ça. C'est des achievements qui sont là pour te guider, en fait, pour trouver la vraie fin.
Ah ça c'est bah c'est enfin comme tu dis c'est vachement méta quoi par rapport au jeu quoi c'est
voilà
les achievements même là dedans il y a s'il y a la narration et tout ça c'est on rentre vraiment bien
la
dans
description
le truc,
de en fait ça j'ai trouvé ça très intelligent c'est que la description des achievements t'as des éléments de scénar les scènes que tu as débloquées qui sont cachées t'as des éléments de scénar et si tu fais le jeu en ligne droite il se termine encore une fois en 3-4 heures à tout casser et t'as un arrière-coup, quoi, si tu veux.
C'est, ouais, c'est pas terrible, quoi.
D'insatisfaction, quoi. Et en fait, bah ouais, c'est normal, t'as suivi les instructions du narrateur, fallait un peu péter le jeu, tu vois, pour aller voir les trucs qui étaient cachés. Pour moi, c'est génial, quoi. Enfin, j'adore. Alors après, je dis pas non plus, si tu veux, que le scénar est absolument, il m'a retourné le cerveau, tu vois, ou, mais c'est plaisant, tu vois, à suivre. Et
alors
c'est intelligent, et c'est un jeu qui fait plaisir, quoi, qui est généreux, en fait.
Mais moi, je voulais savoir comment tu as fait pour savoir qu'il ne fallait pas écouter le narrateur, justement.
Alors, ça, je l'ai découvert parce qu'à un moment donné, tu récupères une capacité. En gros, tu peux appuyer sur Dash autant que tu veux. Comme ça, tu peux rester dans les airs, quoi. Et le truc, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai récupéré ça. Si ça se trouve, ça a débloqué des endroits cachés dans le décor, tu vois. Attitude typique du complétionniste, tu sais, qui aime bien trouver des trucs cachés, quoi.
Ouais.
Et donc, du coup, à un moment donné, j'arrive dans un truc. Et là, le narrateur, il me dit « Non, non, mais il n'y a rien à voir là-bas. » Tu me connais. Moi, tu me dis qu'il ne faut pas aller là-bas, j'y vais.
Ouais.
Et là, bon, je te laisse imaginer la suite, quoi.
Non, mais ça justement, je trouve ça très cool que ça soit amené de cette manière-là, quoi. Que toi-même, t'as pris l'initiative d'y aller, et pas que c'est un truc qui te soit amené comme ça, bêtement, enfin, méchant. Par exemple, tu vois, dans un jeu où il y a un narrateur qui parle pendant que tu joues, c'est Trine. Mais par exemple, dans Train, si t'essaies de casser le jeu, bah, le narrateur, peut-être, il va faire une blague ou deux, mais tu auras pas un autre embranchement, quoi, dans le jeu. C'est-à-dire que, si tu veux, tu peux t'amuser toi-même à casser le jeu, mais il y a pas quelque chose qui est prévu, c'est fait. Et je trouve ça vraiment, bien amené. Parce que, si ça se trouve, tu peux te dire, ouais, ça sert à rien que j'essaie de passer par là, parce que le narrateur, il me dit d'aller là. Et, donc, t'essaies d'aller par là-bas, et tu vois qu'en fait, au final, il y a rien. Il y a beaucoup de jeux où c'est comme ça, tu vois. Ou tu essaies de casser le jeu, au final il y a rien qui se passe. Et là, le fait qu'en fait justement tu trouves une capacité, que t'essayes de compléter le jeu par toi-même, et que tu vois que le mec il dit non mais il y a rien dessus, il y a rien du tout là-bas, et tu te dis attends c'est bizarre qu'il me dise ça, et que tu décides d'y aller par toi-même en fait. Et bah ça, je trouve que c'est génial en fait dans un jeu. C'est quand même amené, mais c'est pas amené de manière grotesque quoi.
Un problème du jeu, je trouve, c'est que le narrateur peut être agaçant par moment. C'est-à-dire que en gros, si tu suis le jeu en ligne droite, à part te dire et assis à la par là, tu vois,
ouais.
Pas grand-chose. Et je pense que ça peut être extrêmement agaçant. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus travaillé à Stanley Parable, où le mec il te troll mais tout le temps quoi, tout le temps. Dans Stanley Parable, quoi que tu fasses, il va te dire un truc différent. Là, il se répète, tu vois, très souvent. Et finalement, il est peut-être moins fignolé que Stanley Parable à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans Stanley Parable, disons que le narrateur est fluide, quoi, si tu veux, ça, t'as vraiment l'impression d'avoir affaire à un personnage derrière, alors que là, tu sens un peu le côté mécanique par moment. C'est un peu moins fignolé que Stanley Parable, par moment. Ouais, voilà. Sinon, j'aurais quand même quelques petits reproches à lui faire, ici. C'est un jeu qui coûte 11€. Vous attendez pas à plus, attendez-vous à un jeu à 11€. C'est-à-dire que c'est un jeu, au départ, tu te dis, putain, mais déjà, les décors, ils sont somptueux et tout. Si c'est comme ça tout le long du jeu, ça va être génial, même s'il dure que 4 heures. Sauf qu'il dure que 4 heures, certes, mais il y a beaucoup de réutilisation de décors. Et ça, j'ai trouvé ça un peu abusif, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des décors que tu vois au début du jeu, ils vont les réutiliser à un moment donné avec un prétexte, genre, oh ouais, en fait, t'es dans une espèce de salle virtuelle, ils reproduisent des décors que t'as vus avant, mais oui, mais c'est bidon, je suis désolé. Et ça gâche un peu le jeu, je trouve. Ça participe un peu à son côté psychédélique, mais ça gâche un peu. Ça m'a sorti du truc, quoi. Je me disais, ouais, jusque-là, le jeu, il était très bien, mais là, en fait, tu sens le côté... En fait, pour être honnête avec vous, je me demande si IC, c'était pas un jeu qui était prévu pour être beaucoup plus cher que ça, à court de budget, tu vois, et que du coup, face au manque de budget, les mecs se sont creusé la tête et se sont dit « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, bon. En tout cas, il y a un côté, si tu veux, pas fini, qui est assez dérangeant. Enfin, il y a un manque de finition. Dire manque de finition, ce serait un peu injuste, parce que c'est pas un manque de finition, tu vois, comme dans certains jeux où t'as l'impression de pas avoir une expérience complète. Mais
peut-être
tu sens que ouais, ça a été rushé, quoi, si tu veux.
La réutilisation des assets, c'est ça qui te fait dire ça, quoi.
Ouais,
que
ouais c'est ça qui fait dire
y,
ça.
Il y a un truc, parce qu'ils sont, ils se sont dit, ouais, peut-être que si on sort le jeu tel quel, ça fera trop court. Donc du coup, à un certain moment, on va faire de la réutilisation, quoi, un peu du recyclage
ouais,
dans le jeu.
C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est le côté, ouais, ok, alors en fait, notre jeu, il serait un peu trop court, quoi, en fait, là. Et du coup, on te rajoute des salles qui sont pas forcément nécessaires, entre guillemets. Dans tous les cas, Icy, c'est un jeu qui vaut 11 balles, et franchement, il y vaut largement. Et surtout, c'est une de mes plus grosses surprises de l'année, et surtout, je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année. Franchement, ce jeu, je suis tombé totalement par hasard dessus. Il est super fluide, il est super péchu, il m'a retourné le cerveau, il m'a fait rire.
Ah ouais.
C'est chose d'extrêmement rare, il m'a fait marrer. Mais genre, tu sais, pas... non, c'est me marrer comme une baleine, quoi, tu vois.
Ouais, surtout dans un jeu vidéo, quoi. C'est, je veux
et
dire,
c'est
sorti des point and click...
voilà.
Bah ouais,
voilà.
Sorti des point and click, c'est dur de voir un jeu qui te fait rire, encore plus dans un beat'em all, quoi.
Donc, certes, si t'as joué à Stanley Parable, il y a des trucs qui font un peu redite. Certes, une fois que t'as maîtrisé le système... voilà, c'est un peu trop facile. Certes, tu sens qu'il y a des problèmes de finition, mais derrière, la boucle de gameplay, elle est en béton armé. T'as une sensation de contrôle du personnage comme t'en as rarement eu. Le narrateur, je le trouve génial. Pour le prix auquel il est vendu, franchement, si vous avez envie de vous faire un jeu court, que vous attendez pas à plus, franchement, 11 balles, allez-y, ça vaut le coup, quoi.
C'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin, moi, que vous ayez quelque chose à me demander, rajouter, je ne sais point.
Non, mais moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est vrai que ça donne vachement envie. Et du coup, je vais peut-être me laisser tenter par ici.
Bah, d'ailleurs, il est disponible, je crois, sur le PlayStation Network, il me semble.
Ah, il est aussi sur...
Ouais.
Ah, c'est cool.
Je crois qu'il y est sur PlayStation Network.
Ah, du coup, je regarderai ça.
Voilà. Donc, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Et regardez le film avec Vanilla Ice.
Ice.
Les recommandations de Pixel. On devrait lui faire une rubrique.